Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC, les grandes gueules.
Clémentine Autain, qui aimerait bien récupérer le mouton. Députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
Bon, je crois que je vais pouvoir l'emmener à l'Assemblée.
Ça. Non, ça quand même pas. Non, ça, ça,
bah,
ça,
on peut pas dire que les Insoumis soient des moutons, ça.
Mais justement, ça peut être très intéressant.
On peut tout leur reprocher, sauf ça. Mais justement, on a maintenant le détail du projet de loi pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Il a été présenté, ce projet de loi, hier par le gouvernement. On retiendra notamment, parce que c'est peut-être une des nouveautés, c'est jusqu'à 300 euros d'indemnité carburant pour ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler. Donc une nouvelle aide, plus ciblée vers les gros rouleurs. Est-ce que c'est une bonne méthode ?
Non, c'est absolument pas la méthode que nous préconisons. Et d'ailleurs, vous le savez, avec la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, on a déposé à l'Assemblée un autre projet de loi qu'on voulait voir advenir de nos voeux. Enfin, on espérait qu'il puisse être mis à l'ordre du jour sur un certain nombre de propositions que nous faisons. Et pour résumer la chose, en fait, le gouvernement refuse de faire payer les profiteurs de la crise. Si vous prenez la question de l'essence, qui est tout à fait essentielle dans la difficulté que rencontrent les Français.
De cette inflation, c'est l'énergie.
Hein. On l'a tous eu. Enfin, ouais. Moi, je suis élue de banlieue, de grande banlieue, donc je fais aussi le plein. Et c'est vrai que c'est hallucinant la hausse qui est insupportable pour la majorité des Français qui doivent prendre leur voiture pour aller bosser et qui ne savent pas comment faire.
D'autant plus cher d'aller travailler.
Exactement. D'autant plus qu'au même moment, vous avez l'explosion du prix de l'alimentation, vous avez l'explosion du prix des loyers, etc. etc. Donc, prenons le cas de l'essence. Vous savez que Total a dégagé des bénéfices de l'ordre de 15 milliards d'euros. D'accord ? Et avec des parties très importantes redistribuées en dividendes. Nous, ce qu'on propose, c'est de taxer ces dividendes pour remettre dans le giron commun de l'argent pour faire face à cette hausse des prix. Ce qu'on propose également, c'est de bloquer les prix des produits de première nécessité. En l'occurrence, sur l'essence, vous le savez, on veut vraiment qu'on arrête cette hausse des prix risque de continuer. Là, on est à 5,5% d'inflation. On avance vers les 7% probablement à la rentrée. C'est absolument ingérable. Donc nous, on propose
même
de bloquer les prix.
Même s'il y a moins d'inflation en France qu'ailleurs en Europe, notamment, on dit le gouvernement, grâce au bouclier qui a été mis en place pour les prix sur l'électricité et le gaz. C'est vrai qu'il y a plus d'inflation en Espagne, en Italie ou même en Allemagne.
En tout cas, le compte n'y est pas et on pourrait faire tellement mieux en augmentant les salaires, le SMIC, pour y compris...
Jusqu'à combien ?
1500 tout de suite, voilà, plutôt que de faire des chèques. C'est très compliqué, vous savez, la logique des chèques.
Où trouver cet argent ? Parce que le gouvernement dépense beaucoup d'argent, mais là, avec vous, on en dépense encore plus.
Oui, mais sauf que nous,
comment vont faire
sauf que nous, on est capable de générer des recettes, ce qui n'est pas le cas du gouvernement. Quand je vous dis qu'on taxe les entreprises qui font des gros profits,
oui, mais
total, 5 milliards. Mais regardez, là, c'est 20 milliards, le gouvernement. Nous, on trouve déjà en 3 secondes, avec une seule entreprise du CAC 40, 5 milliards. Mais vous allez prendre dans la poche des sociétés d'autoroutes, vous allez prendre dans la grande distribution, vous êtes capable de dégager de l'argent. Par ailleurs, nous proposons globalement une réforme de l'impôt. Et cette réforme de l'impôt, parce que Mme Borne a dit hier, nous ne voulons pas augmenter les impôts.
Oui.
Mais on est en total. Et d'abord, ils les augmentent. Vous savez que la CRDS, ça va parler, hein, ceux qui regardent leur fiche de paye, la CRDS qui devait être une ponction sur les salaires provisoires, est en réalité maintenue jusqu'en 2033. Donc il y a bien, une hausse des impôts qui est déguisée.
Il y a suppression de la redevance, donc ça c'est quand même du pouvoir
d'achat. Alors, comment allons-nous payer ? Mais nous sommes en désaccord. Comment allons-nous payer un audiovisuel public ? Soit on décide qu'on n'en a plus,
ça sera dans le budget,
qui a l'air d'être le projet du gouvernement, et alors il les trouve où ? Il veut ramener le déficit public à 3%, d'ici à 2027, ce qui représente 80 milliards d'euros. Le gouvernement va-t-il trouver l'argent ? C'est la question qu'il faut vraiment poser aux marcheurs qui vont venir ici, à tous ceux qui soutiennent ce gouvernement. C'est que l'horizon qui est donné est un horizon de réduction de la dépense publique. Et en revanche, on ne sait pas aller chercher les recettes. Je vous ai dit,
les recettes,
taxation des dividendes, relancer l'activité. Mais quelles mesures pour relancer l'activité ? Il y a plus
de recettes fiscales, et c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est grâce à cet argent qu'ils vont financer, c'est ce que j'ai dit Bruno Le Maire. On a des recettes fiscales supplémentaires parce que l'argent est rentré.
Il n'y a aucune politique de relance de l'activité. Nous, nous proposons un plan qui est un plan de relance de l'activité, notamment sur le secteur de la transition écologique qui est générateur potentiellement de travail.
Donc vous ne voterez pas ce texte ?
Nous proposons la relance de l'activité par le partage des temps de travail. Par le partage du temps de travail. Écoutez bien cette mesure-là.
Mais quand vous avez un contre-programme, est-ce que vous ne voterez rien du projet de loi du gouvernement ?
On va regarder mesure par mesure. Vous savez, on peut voter article par article.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Donc, il peut y avoir des articles, on va regarder dans le menu détail et prendre la décision collective, mais je n'exclus pas qu'il y ait certaines mesures où, au final, on les vote.
Et vous aimeriez que le gouvernement reprenne, peut-être pas toutes vos mesures, mais une mesure ou deux, parce qu'on parle beaucoup de compromis.
On aurait bien aimé qu'il s'inspire, oui. De notre, et de notre
pendant
projet.
Le débat parlementaire, ça va arriver.
Mais comprenez que c'est vision.
Petite remarque, vous voulez me dire, vous êtes pour le partage du temps de travail.
Oui.
Mais il y a de la pénurie partout. Les entreprises ont du mal à recruter.
C'est faux. C'est faux.
C'est ce qu'on entend.
Alors
tous les jours.
je me permets.
Mais vous comprenez ma réflexion parce que.
Très bien. Je la comprends parfaitement
Il y a pénurie de main-d'œuvre, donc les gens sont plutôt prêts à payer des heures supplémentaires parce qu'il n'y a personne qui veut.
Il y a des secteurs qui sont dans cet état. Je pense en particulier à la restauration.
Et pas que.
Moi, vous voulez que je vous dise mon sentiment ? Je pense que si on augmentait les salaires, on aurait du personnel. Donc, il faut savoir quelle est la bonne solution pour répondre à cette pénurie. Mais si vous prenez en macro, vous savez, écoutez juste ce chiffre, je vous assure, c'est qu'aujourd'hui, on a un emploi pour 13 chômeurs. Donc, on a un problème structurel, ce qui n'empêche pas ce que vous décrivez, c'est-à-dire certains secteurs où il y a de la pénurie parce que ce sont des métiers difficiles et très mal rémunérés. La même chose dans les hôpitaux, hein. Moi, je vois bien, chez moi, l'hôpital Robert Ballanger, il y a un problème qui est réel. Il y a des postes. Bah oui, mais enfin, les profs, vous avez vu les salaires ? Vous avez vu les salaires des profs ?
Vous
avec le gel du point d'indice ?
Et de combien ? Sauf que la vie, les gens, c'est de la micro, hein. C'est de la microéconomie. Vous savez, ce qui donne les emplois, ce sont les PME, vous savez.
Oui, mais alors il faut protéger les PME et les TPE, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque celles qui sont favorisées,
en montant un
ce sont les grands
groupes. Ça va être dur pour beaucoup d'entreprises.
Il faut soutenir l'activité des TPE-PME. Donc relancer le carnet de commandes, ça c'est quand même important. Donc si vous faites la transition écologique en investissant des milliards, je vous assure, pour un paquet de TPE-PME, ça va fonctionner. Et on peut avoir des mesures protectrices avec aussi une progressivité de l'impôt qui n'est pas la même pour les entreprises du CAC 40 que pour les TPE-PME. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez que proportionnellement, les petites entreprises paient beaucoup plus d'impôts que les grands groupes. Et donc ça, nous le dénonçons. Donc on a des mesures de compensation pour soutenir l'activité des petites et des moyennes entreprises.
Clémentine Autain, question des grandes gueules. Marianne Soubré.
Oui, moi j'avais juste une question, mais là, c'est juste sur les hôpitaux. On reviendra après sur le...
Comme on n'a pas le temps, je vais directement à ta question.
En ce moment, vous êtes effectivement au cœur d'une polémique. Donc je vous ai vu hier justement dans...
Ah ça y est, on est déjà sorti du pouvoir d'achat.
Parce qu'il nous reste peu de temps, ça va très vite.
C'est pour ça qu'il m'a...
D'accord.
Donc je vous ai vu hier dans l'émission avec Olivier. Je vous ai regardé, j'ai essayé de comprendre. Je vais vous dire ce que j'en ai compris. J'ai compris que quand à Abouaf ça a été écarté, dans un premier temps, vous avez tous dit que c'était à cause des attaques racistes dont il était l'objet, que vous avez préféré écarter sa candidature compte tenu du contexte. Lui aujourd'hui dit ça n'est pas vrai, j'ai été écarté parce qu'il y avait des accusations contre moi. C'est ce que j'ai compris. Hein,
je me permets tout de suite là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que. On l'a écarté.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on a
il y avait
eu des témoignages.
Bien compris.
On a eu des témoignages dont j'ai été
dans le cadre de
destinataire, pas dans le cadre de la commission parce que moi j'en fais pas partie.
D'accord.
J'ai été mise en copie et j'ai moi-même rencontré l'une des plaignantes vis-à-vis de Tahabouaf personnellement.
Sachant qu'aujourd'hui il n'y a pas de plainte contre lui.
Il n'y a pas de plainte parce que les femmes ne veulent pas porter plainte, parce qu'elles ont peur, parce que la médiatisation est aussi un frein terrible. Plus on en parle, moins elles ont envie de porter plainte, je ne vous cache pas.
Alors l'avocate que je suis, juste une parenthèse par rapport à ça, vous avez raison, c'est très bien qu'il y ait un comité, vous êtes le seul parti où il y a un comité et on ne peut que s'en féliciter. Par contre, je vous ai entendu hier dire que les femmes avaient peur de porter plainte, etc. Il y a quand même un gros effort qui a été fait par la police et je ne saurais que vous encourager à les aider, à accompagner les femmes.
Je passe mon temps à le faire.
Vraiment, faites-le, parce que vous savez comme moi, et quand on est avocat, on sait que la justice, elle ne doit pas se faire dans votre commission ou ailleurs, elle doit se faire dans les commissariats et ensuite dans les tribunaux.
Je suis parfaitement d'accord avec vous, et d'ailleurs je ne cesse de dire qu'un mouvement politique n'est pas la justice.
Voilà.
Un mouvement politique n'établit pas la vérité.
C'est bien de l'entendre.
Un mouvement politique, en revanche, a des règles internes de fonctionnement. Et nous voulons prémunir notre mouvement des hommes violents et faire en sorte qu'il y ait également une corrélation, une adéquation entre les principes féministes qu'on affiche et la réalité des hommes que l'on promeut. Donc, on est allé le voir pour lui dire, voilà, tu ne peux pas être investi par la France insoumise au regard des témoignages dont nous disposons. Et à ce moment-là, on lui a dit, il y a deux solutions. Soit tu te retires. Les femmes ne voulaient pas que ce soit public. Hein. Je le redis, les femmes ne souhaitaient pas que ce soit public. Et par ailleurs, il y avait un autre problème, c'est qu'à partir du moment où ça devenait médiatisé, vous voyez bien la situation dans laquelle se trouve Taha Boaf. C'est qu'il ne peut pas se défendre, les témoignages ne sont pas publics et il n'y a pas la justice pour que lui-même.
C'est ce qu'il vous reproche.
Mais il pose une vraie question.
Alors tiens, à ce sujet.
C'est une vraie question.
À ce sujet, écoutons.
Difficile.
Alors écoutons ce que disait son avocat, Maître Bourdon, qui était l'invité ce matin d'Apolline de Malherbe.
D'évidence, il y a eu une espèce de précipitation d'un certain nombre de partis, poussés par une vague citoyenne, par une exigence de vigilance tout à fait légitime et compréhensible de se doter de procédures de filtrage, de sorte que dans un temps bref, on puisse dire à un candidat, écoutez, là, il y a des soupçons, etc., etc., il faut que vous mettiez de côté. Je ne suis pas hostile à cela, mais je dis simplement que tout ça s'est fait dans un tel bricolage. Taha Boaf a essuyé des plâtres très douloureux, très durs, d'un dysfonctionnement, d'une inadaptation de ces mécanismes qui, encore une fois, ont été conçus dans la précipitation. On aurait dû le présenter une narration des faits.
Ah oui, c'est ça. Taha Boaf, si c'est pas finalement ce qu'on lui reproche précisément, et donc il y a pas le droit finalement à un débat contradictoire.
Exactement.
Vous reconnaissez ça, que ça dysfonctionne.
Ah, mais moi, je pense que on est devant une difficulté et qu'on n'est pas au bout de l'expérience qu'on a mis en place.
Il a payé un peu les pots cassés là.
Il n'est pas le seul. C'est pas la première fois qu'on est face à des situations de ce type. C'est pas la première fois et on n'est pas le seul mouvement où il y a des procédures de cette nature. Donc moi, je ne dis pas que ces procédures sont parfaites. Je dis juste que nous avons pris nos responsabilités, encore une fois, devant des témoignages qui nous paraissaient circonstanciés, qui nous paraissaient graves, et que, en effet, entre plusieurs mots, d'une certaine manière, on a fait un choix.
D'accord.
Un choix.
Mais est-ce que vous lui avez demandé de ne pas expliquer la vraie raison de son éviction et de dire qu'il s'agissait en fait des attaques racistes qui le poussaient à renoncer?
Non, c'est pas comme
l'attaque
ça.
Raciste qui existait d'ailleurs.
Oui, ben voilà. Non, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Que... Après, on va pas.
Oui. Non, mais oui ou non, parce que.
Non, c'est pas la question.
Non, c'est pas. Je ne crois pas que c'est la question. Je ne sais pas si ça passionne absolument.
Non, mais il vous accuse de ça. Il vous accuse de ça. Donc, on va savoir.
Oui, mais
si je
ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas. La nature de la discussion n'a pas été celle-là. La nature de la discussion était de savoir s'il se retirait ou s'il ne se retirait pas et que nous serions obligés publiquement de dire les raisons pour lesquelles il n'était pas investi. Mmh. C'était ça le sujet de la discussion. Moi, j'ai découvert son communiqué ensuite. Donc, j'ai compris que il avait tranché et je pense que c'était souhaitable à ce moment.
Et pendant deux jours, vous avez laissé faire
pendant
deux jours.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, qu'on dise
qu'en fait, ces attaques racistes.
Alors, prenez-le dans l'autre sens, Olivier Trouchot.
Le poussait. Donc, il y a une espèce de manipulation de l'opinion publique.
Non, et alors, prenez-le dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on dise? Qu'on dise la vérité?
Oui, mais c'était pas pour ça qu'il se retire là.
Prenons-le dans
l'autre
sens.
Oui, il fallait dire la vérité.
Il fallait dire aux Français la vérité.
Bah bien sûr.
Ah mais je ne le crois pas.
Accuser quelqu'un qui quand même il y a pas de
pour deux raisons.
Il fallait dire.
Je ne le crois pas.
Nous estimons que en fonction des témoignages que nous avons,
eh ben non,
il ne peut pas rester candidat.
Je vais vous dire pourquoi. Il y a deux raisons pour lesquelles ce n'est pas en effet le point de vue que nous avions retenu. Le premier, c'est les plaignantes. Entendez cela. Les femmes ne souhaitaient pas que ce soit public. Je vais vous dire, faire une confidence. La victime, la première qui est venue me parler, la femme qui m'a donné la première de visu le témoignage, elle s'est assise en face de moi. La première chose qu'elle m'a dite, c'est « je ne veux pas parler parce que je ne veux pas participer à la campagne contre lui, qui est une campagne raciste et domestique. »
Elle
m'a parlé à moi, elle ne veut pas parler publiquement. Entendez-le.
C'est terrible.
Oui, c'est terrible. Oui, c'est terrible.
Vous savez,
je suis d'accord que
c'est
terrible.
Les gens d'une communauté ne peuvent pas dénoncer un violeur de la même communauté. C'est quelque chose qui existe.
La même. Pourquoi vous préjugez qu'elle est de la même communauté?
Mais non, parce que
elle vient vous voir. Elle n'a pas été venir la
communauté des insoumis.
Non, vous n'avez pas compris. Elle ne voulait pas, par son témoignage public, finalement participer.
Donc, protéger quelqu'un qu'elle accusait.
Pas le protéger, ne pas participer. Elle ne l'a pas protégé. Elle a parlé dans la cellule. D'accord.
C'est ambigu.
Et deuxième point, il y a deux arguments, si vous pouvez me permettre. Le deuxième, c'était aussi pour Taha Boaf. À partir du moment où vous savez qu'il n'y a pas de plainte,
bah oui, c'est ça,
publique, que donc il va être comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire accusé d'agression sexuelle grave sur la place publique sans aucune possibilité de se défendre. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Vous voyez bien qu'il y a une difficulté.
Donc, la volonté, c'est le cas pour beaucoup de personnalités.
Exactement. Eh ben,
mais ça,
excusez-moi,
c'est
il y en a beaucoup qui ont du coup refermé la chape de
c'est
plomb.
Bien de le reconnaître.
On peut faire mieux. On peut faire mieux. On peut faire comme PPDA. On peut faire comme a été fait avec beaucoup d'autres cas.
Non, il y a des instructions.
C'est-à-dire ne rien dire.
En fait, vous avez sanctionné Wafs. Vous l'avez jugé. Vous l'avez condamné.
Non.
On ne l'a pas jugé. On ne l'a pas condamné.
Il a perdu son investiture.
Oui, d'accord. Mais oui, c'est une chose de mettre quelqu'un de côté en lui disant il y a trop de casseroles, on n'en sait rien. Écoute, on va voir.
Sanction quand même.
Mais attends, mais c'est une chose de dire.
Oui, oui, sanction
quand même.
Oui, dans ce sens-là, oui.
Non, mais je suis d'accord avec vous sur ce point. Il a été sanctionné, peut-être sur des affirmations erronées.
Et qui n'ont pas été vérifiées.
C'est possible.
Mais ça c'est tout ce qu'on appelle le principe de précaution. Toute la difficulté, c'est ce qu'on appelle le principe de précaution.
Ah bah là, on entre dans une dimension.
Mais ils ont le droit. Je suis d'accord, mais ils ont le droit de le faire.
Dans ce cas-là, il faut le dire en tout
sens. Nous sommes une organisation politique. Nous ne sommes pas les tribunaux. Nous avons un principe de précaution. Nous avons une volonté de rechercher une éthique entre nos pratiques et les personnes qui nous
les font. C'est vrai que pour Éric Coquerel, par exemple, qui lui aussi...
absolument pour Éric Coquerel.
Il y a une plainte.
Absolument.
Il est accusé d'harcèlement sexuel.
Alors, vous savez quelle est la qualification?
J'ai écouté ce qu'a dit Sophie Tessier, ça ressemble à du harcèlement sexuel, ce qu'elle dit.
Ce qu'elle dit aussi, c'est que ce n'est pas pénalement répréhensible. Donc,
elle a porté plainte.
Oui, on va voir. Mais là, en l'occurrence, elle a saisi la cellule. Non, mais c'est le même traitement. Elle a saisi la cellule, d'accord? Et donc, la cellule s'empare de ce sujet. Et va
Il n'y aura pas de poids de mesure.
Il n'y a pas de poids de mesure. Ce que je peux vous dire, c'est que les faits n'ont strictement rien à voir.
C'est ce que je vais vous dire.
Voilà, me permets quand même.
C'est important. Et c'est bien aussi de faire des distinctions.
Et encore plus rien à voir avec M. Abad.
J'ai entendu
sur BFM en permanence la comparaison. Vous demandez que Abad démissionne et vous laissez Éric Coquerel. Excusez-moi, entre des témoignages de viols multiples avec usage de drogue pour parvenir à ses fins, et ce qu'a raconté Sophie Tissier sur votre antenne, c'est-à-dire une drague insistante avec des mains sur les hanches, pardonnez-moi.
D'accord, mais c'est bien de faire distinction.
Parce
qu'on a l'impression qu'on ne faisait plus distinction entre les faits.
Pour comprendre simplement, les faits reprochés à Taha Bouaf sont, contrairement aux faits reprochés à Coquerel, pénalement...
Plus grave.
Pénalement, vous vous dites.
Ah oui.
D'accord.
Pénalement répréhensible.
Bon. D'accord. Kevin Bossuet.
Sur la lutte contre les violences sexuelles, je suis évidemment d'accord. Moi, il y a deux choses qui m'ont choqué dans cette affaire. La première chose, c'est que finalement, à chaque fois que l'on critique Taha Bouaf pour ses propos contre la police, tout de suite, on est taxé de raciste, on est taxé d'islamophobe. C'est-à-dire qu'on a, c'est vous qui essentialisez ce jeune homme, Taha Bouaf, alors que moi, très clairement, je m'en fiche de sa couleur de peau, je m'en fiche de sa religion, mais je condamne tous les propos qu'il a pu tenir contre la police, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a eu une vague raciste de la part de l'extrême droite, mais je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. On peut aussi avoir des critiques républicaines et un débat républicain. Et la deuxième chose, ce que je vous reproche, c'est que vous avez érigé ce garçon comme étant le symbole, finalement, de la jeunesse des banlieues. C'est-à-dire, sauf que moi, des jeunes des banlieues, j'en croise tous les jours.
Moi aussi.
Il y en a beaucoup qui aiment la police. Il y en a beaucoup qui aiment la République. Il y en a beaucoup qui ne pensent pas comme Taha Bouaf. Finalement, vous l'avez érigé comme représentant des banlieues pour le jeter et pour le traiter de tous les noms par la suite. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, finalement, d'avoir égratigné l'image de ces jeunes des banlieues? Et moi, j'ai l'impression que, finalement, vous ne cherchez plus des électeurs, vous cherchez des victimes. Vous êtes sans arrêt en train de nous raconter... Votez pour la NUPES parce que nous, on représente les musulmans. Votez pour la NUPES parce que nous, on lutte contre le racisme, etc. Mais je sais pas, il faut arrêter d'essentialiser les gens. Je connais des gens qui sont musulmans, je connais des gens qui sont d'origine étrangère et qui votent pour Macron ou qui votent pour la droite. Voilà, vous n'avez pas le monopole de la lutte contre l'islamophobie ou de la lutte contre le racisme, et c'est ça que je vous reproche.
Beaucoup de choses avec lesquelles je suis en désaccord avec ce qui vient d'être dit. D'abord, je ne crois pas que Taha Bouaf incarne l'ensemble de la jeunesse des banlieues.
Heureusement.
Je pense également qu'on peut tout à fait critiquer un certain nombre de ses propos, compris moi. J'ai été d'accord avec certains de ses propos, en désaccord avec d'autres.
Vous êtes traité de raciste.
Voilà, et je combats le racisme, donc ça c'est clair. Mais vous ne pouvez pas nier, à l'inverse, qu'en revanche, l'extrême droite a décidé d'en faire sa cible. Ça s'est plus passé dans cet ordre-là, si vous voulez. C'est que l'extrême droite a décidé que c'était la cible et a décidé qu'il était la quintessence de la représentation de tous ces sauvages des banlieues populaires. Donc pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là. que ça s'est fait. Et ensuite, il y a deux choses qui sont distinctes. Hein. Mmh. Il y a tout ce qui relève de cette campagne raciste, faite aussi de mépris de classe, qui est une chose. Et une deuxième question, qui est principielle, qui est le combat que nous avons contre les violences faites aux femmes. Et reconnaissez au moins que nous n'avons pas mis la chape de plomb.
Ah, je suis d'accord avec
vous. On a agi, et je vous assure que ce n'était pas évident, pour l'avoir fait personnellement, que c'était particulièrement douloureux, et qu'on se retrouve dans une situation qui pose, vous avez raison, plein de nouvelles questions auxquelles il va falloir répondre. Mais il me semble que le procès ne doit pas être d'abord le procès de femmes comme moi, ou comme Sandrine Rousseau, qui essayons d'agir.
Vous vous sentez blessé lorsqu'on vous attaque sur cette histoire par rapport à votre parcours personnel?
Ouais, je vous dis
vous
franchement.
Vous avez raconté, hein, parce que vous-même, vous avez été victime d'un viol. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous renvoie, on met en doute votre sincérité, ça vous blesse?
C'est même assez insupportable, faut être très honnête, c'est d'une violence inouïe. Et que, je le dis, je l'ai déjà dit sur un plateau, mais que personne m'ait demandé à aucun moment si c'était pas difficile pour une femme qui a été victime de viol, d'avoir à traiter cette question-là. Et si on pouvait me parler juste gentiment, sans m'agresser, de 25 000 questions, en me mettant sur la sellette, comme si j'avais voulu faire passer je ne sais pas quoi, au-dessus du combat, qui est quand même le combat de ma vie, contre les violences faites aux femmes, c'est vrai que je ne le vis pas très très bien.
D'accord.
Bon, après, je suis une femme politique, vous avez vu, donc je tiens debout, il n'y a pas de souci.
J'ai le cuir dur.
Voilà, j'ai le cuir dur, il n'y a pas de problème, mais je trouve ça assez gonflé. Pour vous dire les choses franchement.
Mehdi Ghezzar, dernière question, il nous reste 30 secondes.
Rapidement, juste, la chose qui me turlupine un peu, c'est le combat de coq qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, entre le Rassemblement national et vous, où non, nous on est le premier parti d'opposition, et j'ai peur que ça fasse une sorte de conflit où rien n'avance, où tout le monde essaie de bloquer pour s'imposer en numéro un de parti d'opposition, et que les perdants, ce soit les Français, parce que rien n'avance dans le truc. Et ce que je vous demande, c'est la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez bien pris conscience que ce que vous avez fait, c'est quand même historique, que la NUPES arrive à tellement de parlementaires, c'est historique. Et est-ce que vous avez, est-ce que vous avez pris conscience de ça, et qu'est-ce que vous allez faire pour pas tomber dans justement dans ce piège du blocage?
Alors, 10 secondes.
Est-ce que vous avez des instructions justement de votre...
Enfin, moi, ce qui me tient... Alors, le combat de coq, c'est vraiment pas mon truc.
Mais c'est ce qui se passe actuellement.
J'espère qu'on n'en est pas là.
Je te serre pas la main, je te bloque,
Il y a un enjeu, par contre, il y a un enjeu, en effet, de savoir qui va prendre le leadership
de l'opposition.
Dans l'opposition à Emmanuel Macron, et qui n'est pas qu'une posture de blocage, de conflit, qui est aussi une posture de perspective politique alternative.
Oui.
Parce qu'à un moment donné, ça ne va pas tenir, cette histoire. C'est très instable.
En moins d'un an, il y a la dissolution.
Ouais, c'est très instable. Donc, vous préparez à une cohabitation.
Non, à une dissolution.
Et donc à une cohabitation derrière.
Potentiellement à une dissolution, en tout cas à gouverner à la place de ceux qui gouvernent aujourd'hui, clairement.
C'est clair. Merci Clémentine Autain d'être venue dans Les Grandes Gueules.